BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Tech & Co Business sur BFM Business. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast ou en replay sur nos plateformes. Au sommaire aujourd'hui, on va démarrer par la cybersécurité avec ce radar 2026, la 8e édition sortie par Wavestone. 230 startups qui sont passées au crible, dont une centaine de nouvelles startups dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. On va décrypter tout cela avec Jérôme Millois dans un instant. On enchaînera avec Eric Haddad, c'est le président de NumSpot. NumSpot, c'est notre cloud souverain. Mais est-ce qu'il faut parler encore de cloud souverain, de plateforme IA souveraine? Il va nous expliquer tout ça. Et puis, deuxième partie de l'émission, on débattra de toute l'actualité autour de l'IA, hein, ces IA bloquées pour aux Européens, enfin tous ceux qui ne sont pas américains, des mythos, des ChatGPT. L'administration américaine, l'administration Trump est très active dans ce domaine. On va débattre de tout ça. On reviendra aussi, tiens, sur les problèmes de compétences aussi autour de l'IA avec nos experts. Ce sera dans la deuxième partie. Allez, Tech & Co Business sur BFM Business, c'est parti.
Tech & Co Business, l'invité.
Et notre invité, on va parler cybersécurité, start-up, IA, avec Jérôme Millois. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, spécialiste associé en cybersécurité au sein du cabinet Wavestorm. On va parler d'un radar des start-up, alors c'est la 8e édition.
Tout à fait.
Environ un peu plus de 200 start-up qui sont évaluées. On va parler beaucoup de tout ça, mais ma première question, elle est, voilà, on n'a jamais eu autant de start-up en France. Enfin, voilà, on a toujours un volume qui augmente, mais on a toujours ce souci pour passer dans ce qu'on appelle les scale-up.
Oui,
c'est le financement
vraiment,
qui manque toujours,
c'est l'expérience cette année. Mm-hmm. D'un côté, on a effectivement une très très forte croissance, je pense qu'on y reviendra, qui est aussi boostée par l'intelligence artificielle évidemment. Mais c'est vrai que l'écosystème peut avoir tendance à plafonner, c'est-à-dire que ça fourmille de petites start-up. Et puis quand on regarde ce qui se passe à l'échelon supérieur, c'est-à-dire les scale-up, les sociétés qui ont levé plus de 10 millions d'euros ou celles qui font plus de 25% de croissance par an pendant au moins 3 ans, et bien là, le nombre cette année décroît. Il y a comme un plafond de verre qui est dû à plusieurs causes qu'on analyse dans l'étude. D'abord, effectivement, des difficultés de financement européen. C'est-à-dire qu'on voit que ceux qui arrivent à lever des fonds suffisants pour passer cette étape cruciale, ça se passe souvent en Israël, ça se passe souvent aux États-Unis, mais justement avec des fonds américains. Quand on va chercher les 70 millions, les 100 millions.
Ou alors quand ça se passe en Europe, c'est avec des investisseurs américains souvent.
Voilà, même si il y a quand même des nouvelles intéressantes qui arrivent avec le fonds de fonds qui est en train d'être créé à l'échelle européenne, la Banque européenne d'investissement, ça a été annoncé la semaine dernière, se mobilise aussi sous l'égide des travaux d'EXO, l'association européenne de cybersécurité. Voilà, on essaye vraiment de déverrouiller pour qu'il y ait des institutionnels comme la BEI qui suivent et que du privé puisse derrière abonder aussi pour essayer de casser ces plafonds de verre.
Donc, investissement.
Voilà, première raison, les difficultés d'investissement. Et puis, deuxième, c'est quand même les clients. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que ces structures, à un moment, elles ont un bon premier produit. Ils trouvent un marché parce qu'ils ont réussi à devenir scale-up. Mm-hmm. Mais après, les clients sont plus exigeants. Les clients veulent plus large, veulent plus international. Et souvent, la start-up, initialement, elle était sur son segment très précis. Et elle a une crise de croissance, à la fois dans son fonctionnement interne, mais aussi dans l'adéquation, finalement, de son produit, qu'il faut qu'elle réinvente, d'une certaine manière, qu'elle élargisse. Et parfois, c'est difficile.
Et s'intégrer à des plus grosses plateformes. Enfin, voilà, parce qu'on connaît, on sait qu'il y a des acteurs mondiaux qui peuvent intégrer différentes plateformes. Ça peut être un moyen d'être distribué par un Palo Alto, par des
alors en tout cas, c'est une demande des clients aujourd'hui. Parce que si on regarde les grands responsables de cybersécurité, aujourd'hui, ils ont un objectif, c'est réduire le nombre de produits. Et justement, pour aller vers des plateformes qui intègrent de multiples fonctionnalités. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les grandes plateformes de cyber, elles sont américaines. On va parler de Microsoft, de Palo Alto, de Zscaler, etc. etc. Et donc, ça voudrait dire qu'il faut qu'ils vendent leur start-up, comme c'est déjà arrivé. Et on sait que ça voudrait dire aussi une part de départ de toute cette innovation. Donc la clé, c'est certainement d'arriver à avoir des plateformes européennes. Et c'est ce qu'on a pu observer cette année, c'est qu'on a des frémissements de rachats entre start-up.
D'accord.
L'année dernière, il y a eu 8 rachats. Cette année, il y en a eu 8 à nouveau, alors que les années d'avant, on ne le voyait pas, pour que nos petites start-up, PME de la cyber, commencent à devenir des ETI, commencent à avoir des plateformes. C'est vraiment ce qu'on appelle de nos voeux.
Et alors, on sent aussi que l'IA prend une place de plus en plus importante. Alors, dans le domaine IA global, on parle, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Mais là, est-ce qu'il y aurait une bulle dans la cybersécurité française aussi autour de cette...
En tout cas, il y a une sacrée croissance de la création de startups grâce à l'IA. On a doublé le nombre de nouvelles startups entre, si on regardait 2025, on regarde 2026. L'analyse...
Ouais, c'est 105 pour être précis. Hein, c'est
voilà, 105 nouvelles, d'habitude, on est autour de 45. Nous, ce qu'on fait pour créer ce radar, c'est on source toutes les startups, mais après on échange avec elles. On fait des entretiens avec elles pour vraiment comprendre ce qu'elles ont dans le ventre, comment ça marche, etc.
Et puis 105, la diversité, c'est dingue, quoi, pour trouver celui qui va se démarquer par rapport à un autre.
Alors, justement, la
différence doit être assez tenue parfois.
Et la différence, elle est ténue parce qu'il y a un peu un embouteillage sur le segment qu'on appelle de la gouvernance des risques, de la conformité, donc une plateforme qui permet de suivre tout ça. Un peu un embouteillage aussi sur la gestion des vulnérabilités, l'automatisation des tests de sécurité. Et le problème, c'est que cet embouteillage, quelque part, il y a deux fois plus de startups, mais il n'y a pas deux fois plus de clients. Et quand on analyse les budgets cyber, ils ont une croissance l'année dernière de plus 1,3. Donc, Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une accélération parce que beaucoup de start-upers ont utilisé l'IA pour sortir leurs produits plus vite. Et on voit vraiment cette accélération dans l'arrivée des structures. Par contre, il n'y a pas la même accélération chez les clients. Et donc, on a un risque quand même d'avoir plus de casse dans les années qui viennent.
Est-ce qu'il y a un message qui perturbe un peu tout ça sur le marché de l'IA? On est en ce moment en pleine dans l'actualité avec ChatGPT 5.4, avec Mythos surtout. Est-ce que ça perturbe pas un peu le message donné de la cyber qui devient, enfin, des applications qui deviennent encore plus vulnérables avec ces IA?
Alors, ça bouillonne dans tous les sens. Il y a plein d'axes qui se collisionnent. Il y a un axe, l'arrivée de ces nouveaux modèles finalement, des puissances, une puissance en cybersécurité énorme, fait craindre de très nombreux risques. Et on voit une accélération des discussions avec les boards dans les entreprises aujourd'hui, voire des nouveaux investissements pour que la cybersécurité des entreprises passe à la vitesse, finalement, des attaques de l'IA. Et en même temps, on voit que ces plateformes, elles deviennent des produits de sécurité. Et en fait, un Mythos, un GPT 5.5 cyber, voire le 5.6 qui est bloqué là, ça peut devenir des produits de sécurité. Et donc, manger le marché des startups. Ouais. Et aujourd'hui, les investisseurs, on le voit, il y a une légère décroissance des investissements qui n'est pas grave.
Ouais, ils ne voient pas la sortie.
Mais surtout, ils ont peur que leur startup se fasse manger, enfin, que les fonctionnalités se fassent avaler par ces grandes plateformes d'IA et que, un Claude, un Mythos, un ChatGPT soient les futurs produits de cyber.
Et si on reste dans cette course à l'armement, on dit toujours que les pirates ont une longueur d'avance. En IA, c'est pareil.
Alors, les cybercriminels et les cyberattaquants sont très très forts sur la transformation numérique. Et on le voit clairement qu'aujourd'hui, ils ont su utiliser ces outils pour accélérer la création des outils d'attaque. Les faux emails, des nouveaux codes d'exploitation, etc. Ce qu'on n'a pas encore trop vu aujourd'hui, c'est des attaques complètement automatisées avec succès. Mais par contre, on n'en est pas loin parce qu'on voit que les moteurs d'intelligence artificielle le permettent. Nous, on commence dans nos missions éthiques, où les clients nous demandent de vérifier la cybersécurité, justement d'épauler nos pentesters avec des modèles d'intelligence artificielle, et ça va beaucoup plus vite.
Et est-ce que ça veut dire, parce que là, on en arrive justement à, quand on parle autonomisation, on parle des agents IA, est-ce que ça, c'est le prochain, la prochaine étape, c'est la sécurisation des agents IA? En leur donnant une identité numérique.
Clairement, aujourd'hui, toutes les applications numériques des entreprises s'agentifient, entre guillemets. Donc, il y a des agents autonomes qui vont être dans les applications, qui vont prendre des données, les copier, etc. Ça pose beaucoup de questions sur où sont exécutés les agents, quels accès ils ont, est-ce qu'on peut les détourner en leur envoyant des prompts malveillants. Et ça génère aussi, et on le voit bien dans le radar cette année, toute une nouvelle catégorie de produits de sécurisation de l'IA. Et où on va aussi justement utiliser l'IA. Il y a l'IA qui attaque l'IA et l'IA qui sécurise l'IA.
En résumé. J'ai vu qu'il y avait des outils de conformité qui vont regarder la conformité des LLM. Il y a des outils anti-shadow IA qui vont aller parcourir le site d'information pour voir si tout est autorisé. C'est là-dessus qu'on voit des...
Voilà, et les deux grandes familles qui ressortent, c'est ce qu'on appelle les guardrails. Alors, c'est un nouveau mot à la mode, comme il y en a beaucoup dans le domaine de l'IA, mais on connaît tous les anciens pare-feux qui regardaient ce qui passe et qui bloquent. Si finalement il y a un problème, les guardrails, c'est pareil, ça regarde les prompts en entrée, ça regarde les sorties et c'est capable de bloquer si on détecte une attaque ou des données qui devraient pas sortir. Ça, c'est un premier usage. Et puis on voit aussi de plus en plus de produits sur justement la gestion de l'identité des agents, pour pouvoir tracer ce qu'ils font et vérifier s'ils ont bien accès.
Est-ce qu'on, bon, la France, on a toujours été bon dans la cybersécurité, que ce soit des grands groupes ou des plus petites, ou des PME ou des startups. Est-ce qu'on peut justement, enfin, on voit émerger, enfin, dans ce radar avec Waystone, vous voyez un petit peu quelques champions futurs qui pourraient émerger de cette sélection des 230 startups cyber?
Oui, alors on a vraiment analysé tout le marché avec BPI France, hein, qui, avec qui on travaille vraiment en commun justement pour identifier toutes ces tendances. C'est une analyse là qui se veut justement exhaustive. Hein. On regarde tout le marché, il y a des critères très précis, on met les startups dedans. Par contre, oui, il y a des champions qui sont clairement en train d'arriver. Je pense justement sur le sujet de l'IA et des guardrails IA. Il y a des sujets autour de la résilience, parce qu'on voit aujourd'hui que il y a forcément un besoin de pouvoir reconstruire rapidement les SI si jamais ils sont attaqués. Parce qu'on essaie de les défendre au mieux, mais l'attaque peut quand même passer. Et donc, on a identifié des startups qui sont particulièrement pertinentes dans ce domaine-là. Vous les retrouverez dans l'étude. On a mis les 3-4 logos à chaque fois des solutions.
Et tu l'as retrouvé sur le site de Weston. Une dernière question. Est-ce que, justement, dans le contexte actuel, il faut dire aux grands groupes d'acheter français? Est-ce que ça, c'est... on entend beaucoup parler de, voilà, de cette idée de souveraineté. Est-ce que ça, c'est un... je suis un grand groupe. Est-ce que je dois me lancer un peu par soutien à cette industrie-là? Et puis aussi parce que je veux des solutions souveraines par rapport à l'univers dans lequel j'évolue.
Alors pour un grand groupe, ce qu'il faut, c'est déjà qu'il regarde où est-ce qu'il réalise son chiffre d'affaires. Parce que si on choisit finalement de dire je veux être souverain français, mais en même temps on fait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, on doit être aussi souverain américain, et puis on en fait 30% en Asie, il faut que je sois aussi souverain chinois. Donc en fait, cette notion de souveraineté, elle n'a pas vraiment de sens dans les grands groupes internationaux. Ce qu'il faut regarder, c'est sa dépendance numérique. De qui je suis dépendant quand je génère mon chiffre d'affaires? Et justement, on ouvre la boîte, on regarde, et on dit, ah oui, j'ai ce niveau de dépendance à ces acteurs-là. Et donc, s'ils appuient sur le bouton stop, ça s'arrête. Et c'est là où justement, on va se dire, OK, de qui je veux être dépendant et dans quelle zone? Et en fait, c'est une analyse plus fine qui nécessite de regarder comment fonctionne l'entreprise, comment fonctionne sa technologie, et de faire des choix éclairés à l'échelle du comité de direction pour être... résilient dans la durée.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça, Jérôme Bilois, associé en cybersécurité et confiance chez Waystone, justement pour retrouver ce radar des startups 2026 dans la cyber avec une centaine de startups dans l'IA. Voilà, c'est assez intéressant d'aller chercher un peu, parce que c'est vraiment bien catégorisé tout ça, sur le site de Waystone. Merci d'être venu parler de tout ça. On marque une courte pause et on va embrayer, tiens, avec la souveraineté, avec un de nos acteurs souverains, il s'appelle Lumspot. Ils ont fait pas mal d'annonces pendant Viviatech. On va le rencontrer tout de suite.
Tech & Co Business, l'invité.
Et notre invité, Eric Haddad, président exécutif de Numspot. Bonjour, Eric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On rappelle un mot sur Numspot. Voilà, c'est dans le groupe La Poste, Claude Souverain, mais il n'y a pas que La Poste. Hein. Il y a Bouygues Télécom.
Vous êtes trois. Numspot est soutenu par 4 actionnaires, Docaposte, La Poste, Dassault Systèmes, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et enfin Bouygues Telecom.
Voilà, et donc une offre de Cloud Souverain. Ma première question, on était à Vivatech il y a quelques jours, alors qu'un Vivatech qui est arrivé juste après l'annonce du gouvernement américain autour de Mythos, hein, qui a dit, voilà, cette IA est trop puissante, on va pas la donner à tout le monde, et surtout pas aux non-américains. Ça, il y a eu un effet, je trouve, électrochoc. Donc du coup, quand on parlait de ce sujet-là dans les allées de Vivatech, on sentait que ce terme souveraineté, alors avec tout ce qu'on met derrière, indépendance technologique, économique, tout ce qu'on veut, mais c'est en train vraiment de monter, et c'est vrai que ce terme-là monte depuis 18 mois à peu près. Est-ce qu'on le sent chez Numspot? Est-ce que les clients aujourd'hui se rapprochent, disent finalement on va quand même regarder les offres, on va arrêter d'aller voir les AWS tout ça en direct et prendre Numspot comme une autre voie possible, mais en se dire tiens, ça pourrait être notre prestataire principal?
Oui, définitivement. Définitivement. Oui. Je pense que le kill switch dont on racontait la légende pendant un certain temps est arrivé.
Oui, ça fait longtemps qu'on disait. Ouais, et un jour, et tout le monde disait, mais non, ça
y est. Il est arrivé ce kill switch. Il est arrivé. Et en plus, il faut reconnaître une chose, c'est que pendant très longtemps, la souveraineté, c'était assez inaudible face à l'apport de cash extraordinaire des hyperscalers américains.
Oui, puis même pour les DSI, il y avait une certaine facilité en disant, je choisis là, comme à l'époque Microsoft, ça marche. Et on ne viendra pas me le reprocher. Voilà.
Mais maintenant, il y a quand même un sujet. Et le sujet, c'est que le key switch existe. Ce qu'on a toujours considéré comme une vertu, c'est vrai, le SaaS, tout ce qui est as a service, c'est vertueux. Oui. Hein, parce que c'est élastique, on peut l'utiliser, on peut le consommer, on ouvre le robinet, ça coule, voilà, avec la technologie. Mais par contre, on peut aussi fermer le robinet. C'est ça qui est nouveau. Ouais. Que tout ce qui est technologie de service devient aussi, si c'est derrière une plateforme américaine, devient aussi un risque qu'il faut mesurer. C'est pour ça que je pense que le propos de NewSpot, de pouvoir apporter un IA de confiance, qualifié Secum Cloud, qualifiable Secum Cloud avec toutes les protections contre les sujets extraterritoriaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est un élément décisif.
Ça peut aller, oui, ça peut être un élément beaucoup plus décisif parfois que, on sait que les AWS, Google Cloud, tout est bien connu, ou autres Microsoft qui vendent tout un tas de services très performants. Alors parfois, voilà, ils sont toujours dans cette course à l'innovation. Finalement, on se dit oui, mais c'est un peu comme tous ces services. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Et si je fais un peu l'équilibre, vaut mieux que je joue le côté IA responsable qu'avoir à tout prix les dernières technologies en cours.
Ouais. Après, il ne s'agit pas de dire tout ce qui était avant, ce n'est pas bien. Je pense qu'il faut être raisonnable, rationnel, définir qu'est-ce qui est sensible, ce qui n'est pas sensible. Et sur les sujets d'IA, de plus en plus, les choses sont sensibles.
Ouais.
Et notamment quand on fait du RAG. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, c'est créer une plateforme qui permet d'avoir une RAG qui est souveraine. Ce qu'on appelle le RAG, donc c'est la possibilité de récupérer l'information de l'entreprise et de pouvoir effectivement faire en sorte que votre IA soit performant. Et prennent en compte le contexte de l'entreprise. Et ça, on le fait de façon souveraine, avec vraiment un lien de confiance.
Oui, et puis si on regarde les fonctions, c'est avec des services Kubernetes, les plateformes IA,
Exactement, en fait, on a développé toute notre plateforme. Mm-hmm. La vertu de NewSpot, c'est qu'on a développé notre plateforme en open source. Donc, elle est complètement réversible par design. Mm-hmm. Et nativement, elle est très proche de la conformité, puisqu'on l'a construite de façon à ce qu'elle soit conforme aux qualifications Secum Cloud, mais aussi à HDS pour les données de santé. Donc on fait en sorte effectivement que ce soit par design fait pour l'IA, l'IA de confiance, par design fait pour la conformité.
Oui.
Donc on propose, aujourd'hui objectivement, quand on regarde les deux tiers de notre activité, c'est autour de l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui développe l'activité, les besoins sont là.
Secum Cloud aujourd'hui, c'est là aussi on parlait de souveraineté qui est en train de monter, enfin de ce petit mot qui est en train de monter, c'est plus un signal faible aujourd'hui. Est-ce que Secum Cloud c'est la même chose ? Alors on sait que des domaines de la défense, certaines administrations doivent avoir cette certification, mais est-ce que là aussi les entreprises commencent à être un peu plus, ça commence à résonner un petit peu, alors qu'avant elle se disait, oh, je ne veux pas avoir ce niveau de sécurité-là, je vais surtout regarder le prix, les services offerts, etc.
Ouais. En fait, face au sovereign washing, enfin, on parle de ça pour parler de ceux qui veulent montrer qu'ils sont souverains, parce qu'il y a un marché en fait, en réalité, aujourd'hui. Enfin, on le disait en introduction, il y a un marché qui est en train de se créer autour de la souveraineté. Mais comme la souveraineté, ce n'est pas qualifiable de façon très tangible, il y a assez peu de critères, évidemment, qui soient. Il n'y a pas de consensus, il y a beaucoup de positions. Le fait d'avoir des qualifications, des certifications qui disent pas tout, mais au moins qui disent ça c'est sécure, entre guillemets. Et l'ANSSI a apporté une bonne réponse. Enfin, en tout cas, nous, est-ce qu'on en fait un vrai avantage compétitif, parce que aujourd'hui, on s'est inscrit sur deux parcours, un parcours pour l'infrastructure,
oui.
Donc pour servir effectivement d'infrastructure, donc qui soit qualifiable Secum Cloud.
C'est ce qu'on appelle les jalons, la J0, pas exact, ouais.
Oui,
on va pas rentrer dans le détail, mais oui.
En fait, on fait en sorte effectivement que, en tout cas, nous, on a fini en tout l'ensemble du parcours. Je rentre pas dans le détail. Effectivement, c'est un certain nombre de jalons. On est sur les derniers jalons, d'accord. Et le dernier jalon, c'est le diplôme. Et on a fait la même chose. Et on est en fin de parcours aussi sur la partie pass. Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est faire en sorte que l'infrastructure soit qui est exposée, qui est proposée, donc les serveurs, le stockage, le réseau qui est proposé aux entreprises, soit qualifié Secum Cloud,
d'accord,
sur une plateforme. Et les services managés, dont l'IA. Et donc, c'est là, je pense que NewSpot a une singularité, c'est que l'IA en service managé que l'on propose a pour objectif de qualifier Secum Cloud.
Ouais, et qui n'est pas juste l'utilisation d'un outil, enfin, je veux dire, d'un simple outil, c'est quand même un outil complexe, mais oui. de l'outil LLM. C'est-à-dire, il y a vraiment, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle d'agents, on parle d'orchestration, on parle de beaucoup de choses. Et ça, NewSpot, c'est ça. Ce que vous proposez aujourd'hui, c'est une plateforme.
On a développé une plateforme avec des services managés. Dans ces services managés, vous le citiez, Frédéric, donc on a du RAG, des agents, des modèles. Et parmi les modèles qu'on utilise, on a bien entendu du Mistral, mais on a aussi beaucoup de partenaires open source et on a des partenaires européens. Donc on essaie de faire en sorte que l'ensemble des outils en fait, qui est disponible ne puisse pas faire l'objet d'un key switch. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, tout est opéré de notre plateforme en France. Et complètement localisable et dont le potentiel est qualifiable Secum Cloud.
Aujourd'hui, On sent ce terme de confiance là, qui revient un peu au devant de la scène. Est-ce que c'est là que ça se joue finalement ? Alors évidemment, on entend parler de performance, de ces modèles, Mythos, ChatGPT 5.6, on sent qu'il y a une course à la performance dont beaucoup d'entreprises, alors c'est certain, il y a un côté d'image, hein, ouais. Mais souvent on a la version 4.5 pour ChatGPT suffit amplement, ouais. Ou des versions de Gemini si on parle de Google. Mais cet aspect confiance, là, il est vraiment revenu au devant. Enfin, ça fait partie des critères importants de choix.
Oui, je pense que la confiance, ça permet l'adoption. Si vous savez, vous évoluez dans un environnement de confiance, d'accord, qui a peut-être des contraintes, mais qui a des contraintes qui sont mesurées, nuancées, qui permettent effectivement l'usage, si vous allez adopter. Je prends notre exemple. Nous, ce qu'on propose, et ce qu'on utilise, hein, c'est une plateforme avec effectivement l'ensemble des éléments, agents, RAG, modèles, etc. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est qu'on a certains experts qui obtiennent jusqu'à 5 à 7 fois de productivité en termes de développement. C'est-à-dire quand on a des initiatives pour documenter, développer, par exemple, un certain nombre d'initiatives de projets, certains experts, on peut prendre une dizaine, même si ça nous coûte à peu près 50% de la masse salariale pour, pour ces experts, ils sont augmentés hein, de 50% en termes de masse salariale. La productivité, c'est 5 à 7 fois. Ça, on le mesure. Et ça, à l'échelle d'une entreprise, selon les métiers, on peut le faire aussi. Mm-hmm. Et on peut aider à le faire.
Est-ce que justement, quand j'entends, pour parler de tous ces sujets-là, est-ce qu'on peut dire que NimSpot, c'est plutôt aujourd'hui, plutôt que parler de cloud souverain, on parle des plateformes d'IA, c'est plutôt plateforme d'IA souveraine, si on veut pousser ça un peu, mettre en avant.
Effectivement, vous avez raison, on ne se positionne pas comme un cloud souverain, on se positionne comme une plateforme. Ouais. Une plateforme qui permet, qui est portable, qui est hybride. Donc, qui permet d'être hybridé avec l'infrastructure éventuellement d'un client qui souhaite, une entreprise qui souhaite moderniser sa propre infrastructure et utiliser la plateforme NimSpot en débordement. Parce que, par exemple, on veut utiliser certains processeurs spécialisés, hein, ce qu'on appelle les GPU, hein, pour des usages intensifs, graphiques, IA ou analytiques. Et en même temps, ça permet de proposer des services managés. Dans ces services managés, bien sûr, on a du cloud, mais on a aussi beaucoup de services managés de type IA. Mais ça, demain, ce sera autre chose.
Vous êtes à la tête de NimSpot depuis 2 ans à peu près ?
Alors, ça a été créé en 2023.
Le profil des clients, il est en train de changer, justement, qui viennent voir NimSpot ?
Oui, alors c'est complètement dingue. En fait, ça a été développé et défini sur un cadre qui était cœur de cible secteur public santé.
Oui, c'était ça, je m'en souviens. Ah oui, santé,
c'est normal, c'est assez, ça correspond au sujet. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises privées, et bon, c'est un quotidien, hein, qui remettent en fait, au niveau de leur direction générale, le sujet de la souveraineté ou de la résilience. Alors, souvent, dans le secteur public, on parle de souveraineté. Dans le privé, on va parler plus de résilience, parce qu'on peut avoir un qui suit, on peut avoir une infrastructure qui lâche, on peut être mécontent du point de vue contractuel avec une entreprise. Donc, avoir cette capacité de résilience qu'on offre, parce que notre plateforme, alors, elle est construite aujourd'hui et développée sur l'infrastructure d'Asso System, et elle est aussi portable sur d'autres infrastructures. On l'a déjà déployée sur d'autres infrastructures et on peut effectivement la proposer en fonction du besoin du client, donc en capacité de résilience, puisqu'elle peut basculer d'une infra à une autre.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Tiens, la prochaine fois, on va venir à des clients. Tiens, on va organiser ça. Les clients NimSpot qui viendraient parler justement pourquoi ils ont fait ce choix.
Il y a un très beau projet en cours.
Bon, eh bien, comme ça sera l'occasion de se retrouver. Merci Eric Haddad, président exécutif de NimSpot, notre plateforme IA souveraine, voilà, plutôt que notre cloud souverain. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après avec nos experts de l'IA. Toute l'actualité, elle est riche sur l'IA, débriefée par nos meilleurs spécialistes. C'est tout de suite.
Frédéric Simotel.
Allez, on va parler de toute l'actualité IA avec nos débriefeurs. Je vous les présente tout de suite. Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron du digital chez Framatome, membre du COMEX. Bonjour.
Bonjour.
Vincent, merci d'être avec nous. Eric Campanini, associé chez Alixio Group. Bonjour.
Bonjour.
Eric. Et Emmanuel Vignon, vice-président engineering, head of AI chez Generis Group. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être à tous les trois. On démarre par le sujet un peu qui fait la une de la semaine. Là, la bataille des super IA est lancée après Anthropic, son modèle Mythos. C'était au tour d'OpenAI de lancer une nouvelle version de ChatGPT baptisée Sol. Et encore là, il y a un contrôle limité par la Maison Blanche. On écoute juste ce qu'en dit Anthony Morel et on revient juste après.
C'est toujours le même schéma maintenant, c'est-à-dire qu'on a connu exactement ça au lancement de Mythos. GPT 5.6 Sol, c'est le nom complet donc de cette nouvelle intelligence artificielle conçue par OpenAI, eh bien sera dans un premier temps au moins réservée à une poignée d'organisations dont on n'a pas la liste complète d'ailleurs, triée et validée par l'administration Trump. Alors pour exactement les mêmes raisons, des raisons de sécurité nationale, parce que ce nouveau modèle, eh bien il est aussi puissant, en tout cas sur Terre, certains indicateurs clés, que Mythos seul revendique notamment un niveau équivalent ou supérieur sur un certain nombre de benchmarks qui concernent le développement informatique et la cybersécurité. Alors ça, c'était vraiment le point clé, le point le plus sensible, parce que Anthropic, vous vous souvenez que Mythos avait été interdit parce qu'il permettait de découvrir des vulnérabilités, des failles critiques qui pourraient être exploitées si elles étaient mises entre de mauvaises mains. Eh bien, seul, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, OpenAI a un peu pris les devants, parce que comme ils ont vu toutes les polémiques autour de Mythos. Donc ils ont dit non, mais nous on a mis en place des garde-fous qui sont très très difficiles à contourner, c'est-à-dire que déjà l'IA refusera de répondre quand on lui pose des questions un petit peu tendancieuses, bah, par exemple fabrique-moi un virus informatique, ce genre de choses, mais en plus de ça, elle sera beaucoup plus puissante sur le fait de limiter les détournements, c'est-à-dire qu'on essaye, on peut essayer de filouter un peu, de passer outre les garde-fous. Et bien là il y a 700 000 heures qui ont été consacrées à tester ces protections, et puis il y a une surveillance des usages aussi, c'est-à-dire que si vous posez un peu trop de questions suspectes, eh bien votre compte pourra être suspendu, voire supprimé.
Voilà, alors on sait que hasard du calendrier, c'est la pression qui a été un peu relâchée sur Mythos, hein, aussi, où ils vont ouvrir un peu plus Mythos, mais enfin ça reste un tout petit accessoire. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, là, de ce chat GPT 5.6, donc baptisé Sol, qu'est-ce qu'il faut, on est une entreprise, on est un peu perdu quand même.
Il y a trois modèles, hein, Sol, Terra et Luna, ouais. C'est trois types de modèles. En fait, on pouvait se poser la question sur Mythos, on pouvait se dire c'est un coup de sang, il y a une incompréhension. Bon, là, on voit qu'on est rentré dans...
Voir un coup de communication un peu aussi.
Ouais, et de côté. Hein. On est rentré dans autre chose. Et en fait, si on regarde l'histoire, toutes les technologies puissantes, à un moment, ont été régulées. L'aéronautique, à un moment, a été régulée. La cryptographie, on s'en souvient, avait été régulée.
C'est vrai. Ah, oui,
il y avait
même
eu une pub d'Apple sur le Power Mac, je ne me souviens plus lequel, parce qu'en fait, il dépassait la puissance de calcul maximale qui imposait une restriction à l'export. Il y avait une vieille réglementation qui n'avait pas évolué. Donc, on rentre là-dedans, et les enseignements, il y en a deux. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir leadership technologique, il y a deux coûts. Le premier coût, c'est qu'on paye, donc ça, tout le monde l'avait en tête. Le deuxième coût, c'est qu'on attend, et quelquefois, on attendra longtemps. Et c'est peut-être le deuxième qui va être le plus gênant, parce que 90% de la valeur d'une technologie, c'est dans ses usages. Donc, si on ne peut même pas payer pour l'avoir, là, on a un sujet de souveraineté.
Donc, c'est ça. Je suis une entreprise, une entreprise lambda. Bon, le risque, c'est que ce soit, que ça devienne beaucoup trop cher. Le deuxième, c'est, je pourrais l'utiliser, et pendant ce temps, les autres sont en train de tourner.
Voilà. Après, on voit qu'avec le temps, ces réglementations-là, la cryptographie ou la taille des machines, elles ont sauté parce que ça devenait intenable. Donc là, on est probablement dans une phase un peu d'incertitude, où on voit des choses qui arrivent, pas forcément soutenables.
C'est ce qu'on dit toujours.
Dans une entreprise, il faut vivre avec.
Ouais, et puis après, c'est ce qu'on dit toujours avec ces technologies, ça va tellement vite. Parce que la cryptographie, ça a mis un peu de temps, Emmanuel.
Oui, en fait, Jean Monnet disait, hein, les êtres humains voient le changement que dans la nécessité, et on ne voit la nécessité que dans la crise. Bon, quelque part, ce qui se passe, c'est
C'est ce qu'on a vu avec la canicule, en tout cas. On peut en mettre ça aussi.
C'est une forme de crise aussi. Oui. Pas la même. Mais là, effectivement, on est face à une force de crise. Et donc, il y a une prise de conscience dans les COMEX que ça devient un risque opérationnel et qui est traité comme un risque opérationnel. Après, moi, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Développer une souveraineté, essayer. Déjà, on n'est pas obligé de. On n'a pas forcément besoin, on le disait la semaine dernière, on n'a pas forcément besoin du dernier modèle frontière pour déployer peut-être 80% des cas d'usage de l'entreprise. Donc, moi, je continue à le penser. C'est une vulnérabilité de l'Europe. Comme tu dis Vincent, contre laquelle il faut lutter.
Est-ce que, Eric, parce qu'on en parlait l'autre jour quand Mythos a été ça fait 15 jours, 3 semaines là, que Mythos a été bloqué au nom américain, et Vivatech est arrivé dans la foulée, et tout le monde du coup, Vivatech parlait de souveraineté, dit ça peut donner un élan à notre souveraineté, il faut y croire.
En fait, pour faire un peu de provocation, et je pensais pas dire ça un jour, mais merci Trump.
Ouais.
parce que c'est un électrochoc, ça amène à prendre conscience, effectivement, comme vous disiez tous les deux, qu'il y a un vrai risque. Je te rejoins jusque-là, on disait, tiens, ça pourrait coûter plus cher, là, ça peut être coupé complètement. Mm-hmm. Et les États-Unis sont en train d'appliquer exactement la doctrine sur les technologies stratégiques, ce qu'ils ont fait jusque-là. Mm-hmm. Donc, c'est pas nouveau en soi. Par contre, c'est un peu comme si on se réveillait là, en disant, oh là, mince, potentiellement,
c'est vrai
dépendant.
Pour ça, je faisais le lien avec la canicule. On nous dit que la planète va se réchauffer depuis tellement d'années que là, quand ça arrive, on se dit, ah mince, oui, en effet, on est. Et c'est vrai ce que tu disais, je reviens sur Vincent, je suis en train d'en penser à plein de sujets qui datent d'il y a longtemps, même sur les processeurs, tu disais sur la cryptographie. Les Américains nous ont déjà habitués à ça.
Sur le nucléaire, sur les semi-conducteurs, sur le GPS aussi. Et on va probablement voir émerger des modèles, finalement, modèles grand public, modèles entreprises, modèles gouvernementaux et modèles de défense. Et c'est Donc, c'est pas très, très grave en soi. Par contre, ça nous invite collectivement à se dire comment est-ce qu'on fait peut-être pour être moins dépendant. Sans doute pas uniquement sur des frontières modèles, mais des modèles peut-être un peu moins avancés, mais plus applicables au domaine de l'entreprise. Et ça repose la question de l'open source. Et de se dire, c'est quel modèle d'IA on veut déployer effectivement dans l'entreprise.
Mais en fait, il y a un côté un peu utopique là-dedans, parce que ce qui fait tourner notre économie, c'est les data centers. En fait, c'est ce qui se passe sur les data centers. On déploie des logiciels, que ce soit en SaaS ou on-prem. Machin. Mais quand tu regardes un data center, en fait, le LLM, c'est une toute petite partie de ce qui se passe dans un data center. T'as des firewalls, t'as des équipements réseau, t'as des baies de stockage. Mm-hmm. Tout ça, c'est des technos américaines, en fait. Donc, en fait, nous, là, effectivement, ça, on met un coup de projecteur sur la souveraineté liée au LLM. Mais
la différence, c'est qu'il y a des technos qui font l'objet de restrictions et d'autres pas. Oui. La cryptographie, petit point sur la carte de l'informatique, mais particulier. Et là, on découvre que l'IA est à cet endroit-là.
Qu'est-ce qui empêche Trump demain de dire que la dernière mise à jour du firmware de Palo Alto, du firewall Palo Alto, est une technologie militaire qu'il faut être régulée?
Firewall, on en a depuis des années. C'est pas arrivé à ce stade.
Alors, non.
Il y a eu d'autres choses, mais il n'y a pas eu ça.
Certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la souveraineté, elle n'est pas uniquement regardée, elle ne doit pas être uniquement prise sous l'angle du « je voudrais installer le dernier LLM on-premise ». Voilà.
Mais c'est pour ça que le modèle chinois est intéressant à regarder, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils développent leur modèle propriétaire, première chose. Deuxième chose, ils vont sur l'open source. Troisième chose, ils regardent Huawei par rapport à Nvidia, ils développent leur propre puce, et ils sont sur des modèles qui sont moins consommateurs de GPU. Donc il y a une stratégie, effectivement, sur quatre dimensions, et pas seulement sur la partie LLM, qui n'est pas inintéressante, et dont je pourrais peut-être...
Visiblement, ils sont biaisés. Alors, on a vu, c'est au ministère de l'Intérieur, je crois, où le ministère de l'Intérieur avait ouvert un accès à un LLM chinois à ses collaborateurs.
C'est le Trésor.
C'est le Trésor. Voilà. Et au bout de quelques jours, ils ont dit, non, en fait, ils ne répondent pas exactement comme on voudrait, donc on va plutôt se replier sur une solution de type Mistral.
Mistral, exactement. Justement, on va parler de Mistral. Est-ce que c'est un coup dur ou pas? C'est l'Union européenne qui veut travailler sur une IA open source, et alors en fait 4 langues, 400 milliards de paramètres, et là elle choisit qui? Elle choisit un Italien.
Évidemment, en tant que Français, on est déçu, on aimerait comprendre pourquoi. Je comprends que Mistral avait candidaté, pourquoi ils n'ont pas été acceptés. Alors si c'est un problème de structuration, peut-être qu'il faudrait qu'à un moment Mistral sépare la partie open source, qu'il met dans une fondation, puis la partie plus business. Mais c'est dommage d'avoir le seul modèle européen qui est sur la carte des modèles mondiaux, qui n'ait pas été retenu. Bon, après, le prix qui était offert, c'est 2,5% de la capacité d'Euro HPC, c'est à peu près 100 millions. Donc c'est pas mal, mais c'est très en dessous de, par exemple, c'est un dixième.
Mais est-ce que ça peut être un vrai coup dur pour Mistral ou pas?
Honnêtement, il faudrait leur demander. Moi, je pense que j'aurais plutôt envie de les aider, mais de comprendre. Et est-ce que ça doit induire pour eux un changement de structure pour permettre d'être un peu le réceptacle de cette ambition open source européen? C'est bien avoir raison tout seul, c'est la stratégie du Minitel, ça il faut pas. Donc est-ce qu'ils ont été indûment évincés? Là c'est pas normal, et dans ce cas la France doit se mobiliser. Est-ce qu'il y a une mécompréhension? Il y a peut-être une structuration qui peut le permettre, mais c'est dommage que l'Europe ne prenne pas son seul modèle européen pour le renforcer.
Et puis après on imagine aussi, parce qu'on sait que c'est les spécialistes de ça à la Commission européenne, c'est le saupoudrer. C'est-à-dire, Mistral, on les voit, ils sont en train de signer des gros contrats à droite à gauche. Peut-être qu'on peut donner sa chance à une autre IA pour avoir un autre...
Oui, mais la logique de l'open source, justement, c'est d'éviter de prendre ça. Donc, que ça arrive sur l'open source, source. Moi, franchement,
en fait, j'ai l'impression. Alors, ils ont le consortium de mines. Ils ont déjà créé des modèles. Alors, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup. On les voit pas trop sur les benchmarks. Il y a que des benchmarks un peu.
C'est vrai qu'on parlait des Allemands à l'FHA, et puis après ils avaient
des
mis en sourdine.
Raison qu'on en parle pas trop. Quoi. Non, moi, la seule analyse que je peux avoir, c'est que un domine arrivait avec un cluster Blackwell opérationnel, ce que n'avait pas Mistral.
Donc il avait déjà ses puces,
il avait déjà ça. Donc ça plus EuroHPC, ça permet. L'Europe peut se dire, je réduis les risques en confiant directement à un acteur qui a déjà ce cluster Blackwell. Le deuxième, c'est que, en fait, la stratégie, la vision de Mistral sur la souveraineté, elle est pas forcément super claire. Ils ont pas dit je fais all-in sur l'open source ou je fais all-in sur un modèle SaaS. Mm-hmm. Ça a toujours été un peu fluctuant. Au début, beaucoup de modèles open source. Et en fait, quand on parle avec eux, c'est OK, super les modèles open source, mais c'est bien si vous utilisez aussi nos modèles payants parce que c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Alors que Domine a plutôt une stratégie full open source depuis le début. Donc il y a probablement quelque chose qui est un petit peu plus aligné par rapport à ça. Et le troisième, c'est l'équilibre politique. Mistral est très franco-français. Alors que le consortium, là, il est italien, allemand, il est peut-être un petit peu plus ouvert, et peut-être que la Commission européenne a valorisé un petit peu plus cet aspect-là. Mm-hmm. Bon, ça, c'est mon analyse, je sais pas.
Non, mais on est pour ça, Eric.
C'est une volonté de l'Europe de faire l'Airbus de l'IA, probablement. Je te rejoins effectivement sur une vision transfrontalière. On est effectivement déçu que Mistral soit pas dedans. Maintenant, peut-être qu'une des explications, elle est encore plus simple que ça, c'est que le cahier des charges qui était demandé, c'était effectivement de l'open source, ce qui n'est pas complètement le cas de Mistral, et une logique à la fois business et recherche. Mm-hmm. Et le mariage entre Domine et Fraunhofer Gesellschaft, qui est quand même un des plus grands centres européens de recherche appliquée, dont on peut être très très fier au niveau européen, la combinaison des deux, c'est probablement ça qui a fait gagner. Oui. C'est quand même 32 000 chercheurs, c'est 3 milliards d'euros d'investissement, c'est déjà une logique ouverte sur l'entreprise.
Faut pas tous de l'IA.
C'est pas que de l'IA, je suis d'accord, mais c'est pas inintéressant de voir émerger d'autres acteurs dont on avait relativement peu entendu parler. Domine, ils ont changé de nom il y a 4-5 ans, ça existe depuis 2016, c'est un acteur. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu circonspect sur le sujet, et moi aussi, j'aurais voulu qu'on pousse un peu plus Mistral.
Moi, le point d'attention que j'aurais aussi, c'est que effectivement, c'est un consortium qui est très académique. C'est, tu dis, Fraunhofer Gesellschaft, tout ça. Et objectivement, l'Europe a toujours été assez fort pour faire des grandes annonces et tout ça, mais derrière, dans l'opérationnalisation, ça peut pêcher un peu. Oui. Là, l'objectif, c'est quand même de sortir un modèle de 400 milliards de paramètres dans moins d'un an. C'est pas juste un petit truc. Quoi.
La marche est élevée, parce que je crois que Domine fait 260 versus 400. Donc la marche est haute. Ouais. Maintenant, ce qui n'est pas inintéressant, c'est ce qu'a dit le fondateur d'OVH, Octave Klaba, qui dit on est peut-être au moment où on va voir arriver une deuxième vague de modèles, parce que ça coûte moins cher, parce que la barrière technologique est un peu plus basse, et de la même manière qu'on l'avait vu avec les navigateurs Internet, on va voir émerger de nouveaux acteurs, et ça va être assez intéressant.
C'est l'approche chinoise, 100 millions de calculs, c'est Quen 3.7 qui est très correct, c'est à peu près ce qu'ils ont en poche. Donc de ce côté-là, c'est bien. Et par rapport à ce qu'on s'était dit tout à l'heure, avoir des marches, des modèles qui n'aient pas les biais psychologiques, puisque le problème d'utilisation du modèle par le trésor, c'était pour faire des notes. Donc il y avait des biais dans le texte. Ouais. Donc c'est bien qu'il y ait effectivement des modèles européens. C'est probablement pas mal qu'il y ait un peu de concurrence, mais on aimerait quand même savoir pourquoi notre champion n'a pas gagné et puis tout faire en sorte pour l'aider.
Est-ce que... peut-être que l'Europe charge, mais je crois que, de toute façon, Mistral, il pariait beaucoup là-dessus, à la fois souveraineté, à la fois frugalité. Oui. Parce que là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en avant, ces Italiens, avec leur solution.
Je te dis, là, le cluster Blackwell opérationnel, c'est une réalité. Non, tu n'y crois pas trop, Vincent ?
Je pense que Mistral en a, puis avec des montants significatifs. Donc
ils ont des promesses d'en avoir. Là, dans leur data center, à.
Non, puis
Alison, là.
Moi, c'est aussi l'effet de temporalité. Ce qu'on dit, c'est bien, on va investir, même nous, ce que va mettre SoftBank, 40 millions dans une première tranche, tout ça, mais on parle à 2030. Quoi. Là, on est en train de parler aujourd'hui. Bon, on va.
Je
trouve que même en termes de transparence de l'information, c'est une décision publique. Mm-hmm. On serait attendu à ce que.
Oui. Est-ce qu'il y ait d'informations
sur le pourquoi.
On est à l'attente d'une vraie stratégie européenne en termes d'IA. Voilà, c'est ça.
Je pense que moi, je vois ça. Enfin, au sein de la Commission européenne, c'est plein de petites licences. Vincent, tu as beaucoup côtoyé, tu continues certainement à le faire, cet univers. Je pense que voilà, il y a des petits tiraillements, ce côté saupoudrage, ce côté.
Ouais, en fait, il y a une dynamique. Enfin, c'est une copropriété de 27 copropriétaires. Ouais. Donc, chez moi, on est 5, on veut faire changer un tapis de sol, il faut avoir 3 séances et des discussions à n'en plus finir. Maintenant, tu as 27 pays qui doivent parler de l'IA sur des sujets très techniques.
Là, tu
peux tout multiplier par 1 million. Donc, c'est structurellement compliqué. Et puis, c'est une mécanique, effectivement, qui fonctionne par le consensus. Et le consensus, il génère du saupoudrage.
Alors, on va être plus positif. Tiens, pour un acteur français, il s'appelle Chaps Vision. Vous connaissez peut-être certainement son fondateur, hein, Olivier Dellenbach, hein, qui avait monté une première entreprise. Alors, c'était du logiciel d'investissement. Et il avait revendu ça à BlackRock 1,3 milliard. Hein, on est dans les années 2018-2019. De là, il monte Chaps Vision, qu'il a donc dans la data, puisqu'ils sont amenés à remplacer à terme Palantir à la DGSI, mais on les a déjà vus dans l'analyse de données au service secret allemand aussi, ils ont commencé à investir tout ça. Et puis Chaps Vision, c'est depuis pas mal d'années, c'est pas mal leur achat. Hein. Je me souviens qu'ils ont racheté un moteur de recherche qui s'appelait Cinequa, qui était le concurrent d'Exalide, qui lui-même a été racheté par Dassault Systèmes à l'époque. Et puis voilà, ils ont un ensemble de rachats. Enfin, c'est une entreprise qui monte pas mal, hein, Vincent.
C'est des produits qu'on utilise. Alors, ce qui est marrant, c'est les chiffres. Hein. Combien de personnes chez Chaps Vision? 1000, on se dirait c'est petit. Combien de personnes chez Palantir? 5000. Ouais. La boîte, elle valait 600 milliards en fin 2025, elle en vaut 300 aujourd'hui. Donc c'est effectivement très bien que Chaps Vision ait pu s'y implanter. Je pense qu'effectivement, vu la souveraineté du domaine, c'était quand même étonnant que ça n'ait pas lieu encore. Donc
ils avaient re-signé en 2025 pour 3 ans. Tout le monde était un peu surpris parce que voilà, on commençait à parler sérieusement de souveraineté. Alors là, de souveraineté opérationnelle. Dans l'exécution opérationnelle de souveraineté logicielle. Donc on n'avait pas trop compris. Et là, donc plutôt une bonne nouvelle.
Plutôt une bonne nouvelle entre une entreprise de 1000 personnes qui déloge une autre de 5000.
Alors, à la DGSI, parce que dans d'autres industries, ils sont encore bien présents. Chez Airbus, notamment. Et pour la petite histoire, c'est Fabrice Roger, qui était le patron d'Airbus à l'époque, qui, lorsqu'il a quitté Airbus, était le patron de Palantir France, et donc a poursuivi un peu le fait de développer Palantir dans ses industries. Emmanuel.
Non, c'est un geste fort. C'est un geste fort, souverain. C'est un geste que j'aimerais bien voir se reproduire auprès aussi des DSI, des entreprises publiques, parce que là c'est l'appareil étatique qui prend cette décision là. C'est bien. Moi je pense qu'il faut qu'on en ait vraiment beaucoup plus de décisions de ce type là. C'est une décision qui est courageuse en fait, parce qu'on sait en fait Palantir. Le truc, c'est que...
Oui, si on choisit Palantir, c'est comme si on choisit Microsoft. On va pas se tromper.
En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, quand je discute avec des gens qui ont Palantir, alors au début, ils sont très, très positifs, tu vois. Ouais, c'est cool, j'ai mis Palantir, machin. Et puis après, je lui dis, oui, mais Palantir, c'est Peter Thiel, proche de Trump, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, ça crispe. Et à la fin, il me regarde et me dit, ouais, mais ça marche quand même super bien. Ouais. Voilà, et du coup, on tombe un peu sur ce truc-là. Et oui, il faut peut-être accepter... parce que alors Chaps Vision, je connais pas et je dirais pas sur ce plateau que ça marche moins bien que Palantir. Je ne sais pas. En revanche, je pense que c'est une décision courageuse quand il y a quelque chose qui fonctionne bien dans une entreprise de décider pour des raisons qui sont souveraines, voilà, de décider de dire allez, je sors de Palantir pour aller sur Chaps Vision, d'autant que ça coûte. Enfin, on sait très bien que les programmes de migration, c'est pas des trucs que tu fais du jour au lendemain. Donc ils vont rentrer dans un programme de migration qui va durer plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Voilà, qui va coûter de l'argent.
Ils avaient déjà signé il y a un an et demi avec la DGSI, avec la DGSI, je crois bien aussi. Mais c'était pour un premier volet très petit. Bon, là, ça y est, ils passent à la vitesse supérieure.
Voilà, et les Allemands l'ont fait aussi il y a quelques années. Peut-être qu'il y a des apprentissages à récupérer auprès des Allemands. Et là aussi, je nourris l'espoir que, quelque part, les Français et les Allemands puissent se parler là-dessus en disant, tiens, comment tu t'y es pris pour sortir de... Enfin, c'est quoi ta trajectoire de sortie de Palantir, Eric?
Oui, tu disais, c'est étonnant que ça n'a pas été fait plus tôt. Mais heureusement, on passe maintenant du slogan de cette souveraineté à une mise en œuvre opérationnelle. Il faut quand même rappeler que Palantir, la plateforme de Palantir qui s'appelle Gotham, elle sert à quoi? Elle sert à chercher des liens entre la vidéosurveillance, les écoutes judiciaires, les plaques vagues d'immatriculation, etc. C'est absolument critique. Oui. Et c'était juste après les attentats de 2015, où le patron de la DGSI avait dit « mais j'ai pas les moyens de réunir toutes ces informations, etc. » Donc il y avait un enjeu stratégique d'aller vite, et la solution à l'époque, c'était Palantir. Oui. Là, maintenant, tu dis effectivement ça va prendre plusieurs mois, je pense que ça va même prendre plusieurs années, parce que Palantir a 10 ans d'expérience derrière eux sur justement les différentes API, sur les usages qui ont été faits jusque-là. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est plus facile politiquement de dire on change que de le faire d'un point de vue technique, et c'est ça sur quoi il va falloir s'atteler maintenant.
Manuel, tu peux rebondir là-dessus ?
Non, je suis d'accord. Enfin, j'ai rien de plus à dire. Ouais.
Alors, en tout cas, on les suivra chaque vision, parce que c'est vraiment une des belles pépites françaises, hein, avec Olivier Dellenbach qui mène tout ça. Et il disait en matinale de BFM, oui, il y a plus de 500 personnes qui ont travaillé vraiment sur ce sujet-là. Voilà, en espérant que voilà cet investissement rejaillisse, enfin, ça puisse irriguer, aller pousser vers d'autres contrats avec la force publique. Sujet aussi sur le constat de deskilling. Je te laisse nous expliquer tout ça, Eric, et on va revenir dessus. C'est vraiment tout autour des compétences IA.
Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de souveraineté technologique. La question de la souveraineté, de la dépendance, elle est aussi cognitive. Et on commence à parler, il y a des premières études qui sortent sur le sujet, et on commence à parler en entreprise de deskilling ou d'atrophie des compétences, qui en fait, plus j'utilise l'IA, et en fait la question c'est pas tellement dans l'utilisation de l'IA, mais c'est chaque fois que je délègue de façon répétée des tâches cognitives à l'intelligence artificielle, le constat, on l'a vu chez les DSI avec les développeurs, on le voit dans le domaine de la santé, je vais y revenir, c'est qu'en fait je perds une partie de cette compétence. Pour les développeurs, c'est effectivement une capacité à challenger le code, certes ils vont plus vite, mais comment est-ce que je challenge le code derrière de façon un peu plus profonde? Il y a une étude qui a été menée, qui a été rappelée là par le magazine Nature auprès de gastro-entérologues, où pendant plusieurs mois, on leur a mis à disposition une IA pour identifier les polypes. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsque je ne suis pas aidé de l'intelligence artificielle, ma performance en tant que gastro-entérologue diminue. Mm-hmm. Donc ça, on l'avait vu avec d'autres technologies jusque-là, donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter l'usage de l'IA. Par contre, ça pose une vraie question sur quelles sont les compétences critiques que je veux préserver dans l'entreprise, et comment, vu l'avancée spectaculaire, extrêmement rapide de ces technologies-là, je fais en sorte de sortir d'un modèle purement organisationnel avec des fonctions, etc., un modèle beaucoup plus centré sur les compétences.
Mais d'ailleurs, ça rappelle un peu, alors bien que c'est Renault, hein, n'a pas dit que c'était forcément lié à l'IA, mais il y a quelques jours, Renault a annoncé la mise en départ de près de 800 ingénieurs, alors peut-être sur d'anciennes technologies, ce que j'appelle les anciennes technologies, davantage sur le thermique et tout ça, le moteur thermique. Mais derrière, ils disent qu'ils vont rembaucher 150 à 200.
C'est un vieux sujet. Hein. Je veux dire, regardez, allez aux zoos, regardez les gorilles, ils sont tous musclés comme des bodybuilders. Ouais. Nous, on ne l'est pas pour... Enfin, notre veste, on ne l'est pas, sauf toi. Pourquoi ? Parce que ces muscles, on n'a pas besoin au quotidien et donc ils se sont atrophiés. J'ai fait un petit calcul, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a eu un gain de productivité de x5000 sur les développeurs. Ouais. x10 pour l'utilisation...
En combien de temps ?
Depuis 70 ans, x10 pour utiliser un compiler. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, d'écrire en langage machine, on a un système qui vous transforme un langage un peu plus élaboré en code. L'utilisation de mécanismes de protection de type et de variables, x5. L'utilisation de librairies qui sont dans l'OS pour accéder à un fichier, etc., x5. L'utilisation de librairies en Python, dès que vous avez un sujet, vous avez une librairie qui fait le job, x5. Au total, c'est x5000. Hein, donc du deskilling, on en a eu. Aujourd'hui, on dit qu'en brut, avec l'IA, on va faire du x3, en net plus 30%. Donc c'est tout petit. Et c'est même l'histoire de l'humanité, hein, qu'on se spécialise et que du coup, on devient plus productif dans un domaine, mais on a besoin des autres pour le reste. Alors, il y a deux choses. Un, effectivement, il faut avoir une vision claire des contrôles et des compétences à garder. Et donc, je pense qu'on va aller... Et Arthur Mensch le disait, hein, il disait que les développeurs deviennent des managers de robots. Et un manager d'une activité technique, il doit comprendre chaque tâche pour la déléguer et la contrôler. Et puis, mettre à jour sa carte des compétences. Je pense que, d'ailleurs, le modèle du prompt ingénieur, hein, qui était la personne qui ne connaît rien et qui sait faire un prompt, pour moi, il est mort.
Ouais.
Le modèle, en revanche, c'est le manager full stack, c'est-à-dire qu'il comprend chaque chose, par contre, qui ne va pas forcément tout faire lui-même, mais qui comprend suffisamment la technique pour pouvoir la corriger, changer les choses. Évidemment, ça dépendra des domaines. Dans du code hyper critique, on continuera à faire 3 développements qui font la même fonction dans des langages, avec des implémentations, des personnes différentes, pour être sûr que derrière, on puisse identifier les problèmes de résultats. Bon, quand il s'agit de faire des applications jetables pour des opérations de communication, là, on fera ça en vibe coding.
Et quelque part, on est en train de revenir aux fonctions de base du métier d'ingénieur.
Ouais.
Oui, aux fonctions. On redonne un peu de l'épaisseur au métier d'ingénieur, notamment dans l'informatique, où souvent on voyait des gens qui avaient des cursus très longs, puis finalement qui passaient leur temps à imaginer les choses, mais qui codaient beaucoup, qui perdaient beaucoup de temps à aller chercher des modules. Ça, là, je trouve que oui, parce que je sors un côté positif de
oui,
tout ça.
Oui, et c'est un côté positif qui doit s'accompagner. Et qui doit s'accompagner sur deux dimensions. Une première partie qui est de se dire, je repense mon organisation centrée sur les compétences.
C'est pas juste un outil.
C'est ce qu'on appelle la partie skills-based organization. Et les études qu'on mène, l'Observatoire d'Axio, montrent que 4% seulement des entreprises sont véritablement orientées dans ce domaine-là. Mmh. Donc là, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est que au niveau des leaders, si j'ai été reconnu ou promu leader sur ma compétence alors que l'IA le fait le mieux, si l'IA décide plus vite, quelle est ma responsabilité en tant que leader et quelle est ma raison d'être dans l'organisation? Donc je ne dis pas que c'est nouveau, je dis que l'accélération est très forte et que ça s'accompagne, skills-based organization d'un côté et accompagnement des leaders de l'autre.
Ouais, mais en fait, il y a l'article que tu mentionnais tout à l'heure. Je voulais revenir juste sur un point.
Nature.
Voilà. Ouais, sur la revue Nature, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une érosion des connaissances. C'est-à-dire que même si tu prends quelqu'un qui connaissait bien son domaine d'expertise, à force d'utiliser l'IA régulièrement, si au bout de quelques semaines, quelques mois, tu lui enlèves l'IA, bah, tu te rends compte qu'il est beaucoup moins fort que ce qu'il était avant.
Fais-le au codeur aujourd'hui, tu vas voir.
c'est le sujet des codeurs. Mais je reviens sur les codeurs, c'est mon quotidien chez Generix. Mais on a besoin, on se dit, oh là là, il faut que les codeurs sachent écrire, faire un Hello World, qui est le programme informatique le plus basique. Il faut qu'ils sachent le faire manuellement parce que tu passes par là quand tu veux construire ta carrière de codeur, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, tu enrichis tes connaissances. Mais en fait, il y a tout un tas de ces connaissances-là qui sont pas forcément très utiles. Et on revient sur aujourd'hui, quand tu achètes une voiture, mais c'est toi qui citais cet exemple-là, Vincent, la semaine dernière, je crois. Dans les années 1920, quand tu achetais une voiture, il fallait que tu sois mécanicien parce que tu avais toujours un problème. Tu étais là avec ta clé 12. Mmh. La 2 chevaux, c'est la voiture qui, justement, pouvait se démonter avec juste une clé. Et donc, on était assez débrouillard. Aujourd'hui, moi, excuse-moi, je sais éventuellement changer les essuie-glaces et remplir, faire le niveau sur le lave-glace, mais c'est à peu près tout. Et puis après, je la dépose. Bon. Donc, c'est pas forcément grave en soi qu'il y ait une perte de connaissances. D'accord? En revanche, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on revienne sur la raison et l'intention fondamentale qui fait qu'on a besoin de maîtriser ces connaissances. Je prends juste un autre exemple. Très rapidement, c'est l'agriculture. L'agriculture, de 1945 à aujourd'hui, on a industrialisé l'agriculture. Et je pense qu'on a perdu de la connaissance sur l'agriculture. Aujourd'hui, on voit des gens sur les marchés qui achètent des fraises en décembre et qui achètent des poires au mois de juillet. Je suis désolé, mais en France, ça pousse pas dans ces machins. Donc, il faut peut-être qu'on réapprenne. Mais en fait, on le réapprend pourquoi? On le réapprend, et je boucle, parce qu'il y a la canicule, parce qu'il y a un dérèglement climatique et parce que quelque part, on se dit que ça devient important de redévelopper ses compétences. Et je pense que sur l'IA, on va avoir un cycle un peu transitoire ou quelque chose comme ça qui va faire qu'au début, on va perdre, puis ensuite, on va remonter, etc. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le sens du progrès technologique depuis... Et
donc là, tu penses qu'on est en plein dans ce chaos un peu...
Oui, solution transitoire, situation transitoire.
Je pense qu'il y aura quand même la différence entre les utilisateurs, comme pour la voiture, qu'on n'a pas besoin de comprendre, et l'ingénieur d'une écurie de Formule 1, ou l'industriel qui fait des voitures à l'échelle et lui qui aura besoin de continuer à comprendre. Donc moi, je suis plutôt du côté des industriels. Je pense que ce management du manager full stack qui comprend vraiment toute sa chaîne technologique, ça, c'est un métier d'avenir. Ouais.
Messieurs, merci d'avoir partagé avec nous tous ces sujets, hein, notamment celui sur les compétences. Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, patron digital chez Framato, membre du COMEX. Éric Campanini, associé chez Addictio Group. Et Emmanuel Vignon, vice-président engineering, head of AI chez Generis Group. Merci, messieurs, de votre passage et voilà de tous vos regards sur cette actu IA qu'on essaie de comprendre un peu plus chaque semaine. Allez, notre émission se termine. On se retrouve ici la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
Tech & Co Business sur BFM Business.